10h33 sur la première, vous écoutez CQFD et on va, Stéphane Delétreau, avec vous reparler du baclofène qui fait à nouveau parler de lui parce qu'après l'alcoolisme et pas le tabagisme comme je l'ai dit bêtement au début de l'émission, après l'alcoolisme, eh bien il semble qu'il permettrait aussi de soigner la boulimie.
Oui, le médicament controversé qui guérirait l'alcoolisme soignerait aussi les compulsions alimentaires. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur la couverture du livre témoignage d'Anaïs Renaud, une quadragénaire française victime de boulimie depuis ses 16 ans. Et les témoignages d'ailleurs, on en trouve de plus en plus sur le net et les réseaux sociaux, poussant certains malades à demander du baclofène à leur médecin. C'est ce qui est arrivé au docteur Pascal Gache, alcoolologue, addictologue à Genève.
Une jeune patiente, elle n'avait pas 30 ans, elle est arrivée en me disant « j'ai tout lu sur le baclofène chez les alcooliques et moi je pense que ça peut marcher chez moi, j'ai une boulimie ». C'était une jeune patiente qui avait une histoire assez typique de boulimie avec une prise en charge psychothérapeutique, médicamenteuse, déjà très longue, puisqu'elle a commencé par une phase d'anorexie quand elle avait à peu près 16 ans, puis très rapidement une phase de boulimie, l'anorexie très courte, et puis surtout de la boulimie avec une interruption à un moment donné, femme extrêmement affûtée intellectuellement, et qui m'a dit « vous ne pouvez pas ne pas m'en prescrire », enfin espèce de... de jeu comme ça, et puis voyant qu'elle connaissait bien le médicament, qu'elle avait bien fait le tour, j'avais déjà eu des demandes auxquelles que j'avais refusées d'ailleurs, et puis quelques-uns de mes collègues français s'y étaient déjà mis, donc voilà, j'ai fait le pas, et puis je pensais que c'était une patiente avec qui je pourrais facilement collaborer, elle était très très ouverte, très transparente. Donc voilà, je lui ai prescrit, puis ça a été comme souvent le premier cas, la chance du débutant, à 150 mg, elle a arrêté de faire des crises de boulimie complètement. C'était assez brutal, au prix d'effets indésirables qui étaient quand même conséquents, notamment une somnolence. Mais elle a dit que c'était magique, quoi. En tout cas, magique au sens où, très brutalement, elle qui faisait plusieurs crises par jour, n'en faisait plus du tout. Elle n'avait plus de crise. Et comme elle était assez prête à ne pas en faire, ça n'a pas posé de problème. Dans sa tête, elle était prête à gérer l'anxiété autrement que par la crise de boulimie.
Quel effet a concrètement le baclofène sur le cerveau d'une boulimique?
Alors, on va reprendre le problème à l'envers. Le cerveau d'une boulimique, il est organisé autour de la prise de nourriture. C'est-à-dire que ses pensées, ses préoccupations sont extrêmement importantes, voire permanente autour de je vais faire une crise, je vais pas faire de crise, il faut pas que j'en fasse, mais je peux pas m'en empêcher. Donc il y a ces allers-retours permanents autour de la question de faire ou pas la crise, qui se termine par une crise, ou plusieurs. Dans la journée, le nombre de crises peut être relativement conséquent au point de complètement obérer et empêcher la vie sociale, mais ça peut être des crises beaucoup plus ciblées, une ou deux par jour, en fin de journée, après le travail, etc. Chez les femmes, par exemple, qui ne vont pas manger le midi pour ne pas faire de crise. Et donc, la vie d'une boulimique, c'est sa vie psychique, c'est beaucoup autour de la nourriture, ou presque exclusivement autour de la nourriture, particulièrement aux heures des repas. Et donc, il y a cette pression qui monte, cette tension qui va monter, et ces préoccupations vont se terminer par une compulsion, c'est-à-dire à ce moment-là une déferlante sur la nourriture. Je dis bien une déferlante parce qu'à ce moment-là, on dit elles ouvrent le frigo puis elles sont capables de manger, ou bien elles vont dans un magasin puis elles achètent des quantités absolument énormes de nourriture, elles n'ont rien à voir avec la faim, et elles vont dévorer cette nourriture. C'est souvent des nourritures ciblées, soit très grasses, soit très sucrées, avec des aliments de choix qu'elles vont acheter de façon très régulière, en général en changeant de magasin d'un jour à l'autre pour pas se faire repérer. Il y a comme toujours quelque chose autour de la honte dans le comportement. Et puis, cette crise va apporter un soulagement qui va se compléter par un vomissement qui, lui, va complètement soulager cette tension insupportable. Derrière le vomissement, les vomissements, habituellement, il y a une grande phase un petit peu de... dépression, c'est peut-être le mot est un peu exagéré, mais où les femmes se sentent moins bien, avec un immense sentiment de culpabilité. Peut-être ce que j'aurais dû dire, c'est qu'entre la fin de l'absorption de nourriture et le vomissement, il y a le sentiment d'être sale. Et donc, le vomissement vient faire comme une sorte de désintoxication liée à la nourriture. Puis comme il y a des préoccupations de poids, P-O-I-D-S très souvent, eh bien le vomissement vient aussi empêcher la prise de poids. Donc tout ça est très réglé dans une écologie, économie, très auto-entretenue, où chaque geste a son sens dans, je dirais, cette perte de sens. Voilà, ça marche comme ça. Alors, au niveau du cerveau, c'est un tout petit peu plus subtiles, on ne sait pas tout, mais on sait qu'un certain nombre de choses sont impliquées. Le mot à la mode, c'est la dopamine, donc le circuit de la récompense. Et puis, le baclofène va agir comme un freinateur du système de la récompense. Donc, il va, au fond, empêcher cette compulsion et il va, en général, même annuler les préoccupations par des mécanismes qui ne sont pas forcément tout à fait bien élucidés. Donc, on a ce super frein qui est le baclofène, qui vient aider le système freinateur, qui a cette double action de limiter, voire annuler les préoccupations et d'empêcher la compulsion. C'est-à-dire que la nourriture va reprendre son droit qui est celui de s'alimenter pour vivre et non plus de se suralimenter pour gérer l'anxiété. C'est ça un peu l'effet du baclofène, simplement au niveau du système dopaminergique et le freinateur qui s'appelle le système GABA.
Il y a donc certaines similitudes entre une dépendance à la nourriture ou une dépendance à l'alcool finalement.
Oui, il y a une similitude dans toutes les dépendances, c'est les préoccupations qui précèdent le comportement, la tension qui naît de ces préoccupations et le soulagement de la tension qui arrive au moment où le comportement est exécuté, boire, manger, se droguer, avec dans les suites très souvent un sentiment de culpabilité. Et après, évidemment, les suites sont très différentes. Si vous absorbez de l'alcool, vous avez une phase où il faut éliminer l'alcool. Et là, plus vous avez pris d'alcool, plus il faudra de temps pour récupérer des effets. On n'a pas du tout ça avec la nourriture, d'autant que la plupart des femmes boulimiques se font vomir. Et que donc, il n'y a pas du tout cette phase d'intoxication au sens chimique du mot. Là. On pourrait parler d'intoxication psychique, mais pas vraiment d'intoxication chimique pour la boulimie. C'est une des différences avec les produits et la nourriture. Mais sinon, notamment dans tout ce qui précède le comportement, donc toutes ces préoccupations, j'insiste beaucoup sur ce mot-là, parce que les femmes boulimiques savent bien parler de ces préoccupations, comme les patients alcooliques aussi savent bien parler de ces préoccupations qui précèdent la prise d'alcool, où il y a cet aller-retour permanent entre j'ai très envie de boire, mais je ne devrais pas boire, ou j'ai très envie de faire une crise de boulimie, mais je ne devrais pas la faire. Donc ça occupe beaucoup le cerveau. Et puis au moment où on passe à l'acte, il y a le passage à l'acte, qui est soit de manger trop, soit de boire trop, avec un peu une différence, parce que chez le malade alcoolique, il y a souvent, dès le premier verre, plus ou moins le désir de contrôler, tandis que chez la patiente boulimique, quand elle fait sa crise, il y a vraiment l'idée de se remplir, de faire cesser la tension avec l'absorption de nourriture, puis le geste de vomir qui peut, à ce moment-là, la délivrer de cette intoxication par la nourriture.
Et on le voit, Stéphane, Pascal Gache confirme qu'il y a des similitudes entre la dépendance à la nourriture et celle à l'alcool. Est-ce que pour le dosage du médicament, en l'occurrence là, le baclofène, puisqu'on parle de lui, il y a aussi similitudes?
Absolument, c'est un dosage assez élevé, proche de celui de l'alcool, et avec donc un certain nombre d'effets secondaires, mais que certaines patientes sont prêtes à affronter tant leur souffrance est grande. Pascal Gache.
Je suis frappé par la détresse de ces femmes. C'est une immense souffrance. Et puis, avec le sentiment d'impuissance par rapport à cette souffrance, elles ont souvent beaucoup vu de psychiatres, de psychothérapeutes, fait des psychothérapies individuelles, des psychothérapies en groupe. Elles ont essayé l'art thérapie, elles ont essayé toutes sortes de thérapies pour se sortir de là. Elles ont aussi essayé certains médicaments, elles ont été hospitalisées. Enfin, elles ont vraiment fait toutes sortes de parcours, avec des parcours, je trouve, beaucoup de souffrance, de courage. Et si le baclofène peut les aider, pourquoi pas.
Il agit chez les boulimiques assez rapidement ou bien il y a un certain nombre de semaines avant que l'on sente véritablement son effet?
Le baclofène agit lentement, au sens où il faut du temps pour trouver la dose, mais quand on a la dose, ça agit brutalement. C'est-à-dire que c'est un médicament avec un effet seuil. C'est assez particulier. C'est pas du tout un médicament où plus vous donnez le médicament, plus il y a d'effet. C'est, il n'y a pas d'effet pendant un certain temps et l'effet tombe d'un seul coup. C'est vraiment un effet qui apparaît brutalement. Par exemple, une femme va prendre 120 mg de baclofène, avoir toujours ses crises de boulimie. 130, elle va se dire, oups, c'est bizarre. Puis à 140, toc, la crise disparaît. C'est un peu vraiment cet effet très inattendu qui parfois même les déroute. Pour certaines, ça les angoisse même de savoir qu'elles vont pas faire de crise parce que c'est tellement ritualisé, ces crises, que j'ai vu plusieurs patientes avoir une espèce de peur du vide. C'est-à-dire, mais alors, je suis plus obligé de faire des crises, je suis plus obligé de vomir, mais alors qu'est-ce que je vais faire, voilà, comment je vais gérer mon anxiété. De là, l'importance absolue d'être suivi en psychothérapie pour ces patientes, d'être accompagné dans ce changement qui est parfois extrêmement brutal et qui peut être très déstabilisant. Donc moi, c'est une condition nécessaire que les patientes soient par ailleurs soutenues, encouragées, et puis aidées même au changement identitaire. Il faut passer du stade de boulimique au stade de pas boulimique, et ça se fait pas forcément en 10 minutes, quoi. Voilà.
Les effets secondaires, on le disait, sont quand même assez marqués. Quels sont-ils, on les rappelle ?
Oui, les effets indésirables du baclofène, c'est des effets qui peuvent être relativement difficiles. Ils sont absolument imprévisibles. D'une patiente à l'autre, ça peut beaucoup changer. Alors, on essaye de les réduire à leur minimum. Les patientes ont toutes sortes de stratégies. Alors, le plus grand, c'est la somnolence. Ce sont la fatigue, les maux de tête, les maux de ventre. Et puis, il faut être alerté avec des changements de ce qu'on appelle le changement d'humeur, des idées noires qui peuvent arriver comme ça de façon très brutale chez des patientes qui sont pas spécialement dépressives. Et là, il faut se retirer tout de suite. On prévient bien les patientes que si elles ont la moindre idée noire, il faut réduire, arrêter. La prescription de baclofène se fait pas du tout comme ça sur le coin de la table en 5 minutes. Il y a une longue préparation dans une discussion, une information, parce que c'est un médicament exigeant, qui est un engagement thérapeutique important. Il faut une bonne collaboration avec les patientes pour arriver à un bon résultat. Il faut qu'elles soient, pour le coup, il faut qu'elles soient patientes et qu'on cherche ensemble la meilleure façon d'y arriver. Quand ça marche, ce qui est quand même, je trouve, moi, j'ai pas une grande expérience des troubles alimentaires, mais je commence d'en avoir une maintenant, avec des résultats qui sont quand même très spectaculaires, hein, il faut le dire, c'est assez spectaculaire, elles vous le disent, les patientes, hein. Hein, on passe de, je pense à la dernière patiente chez qui ça a fonctionné, là, c'est une patiente qu'on appelle une hyperphagique restrictive, donc c'est une patiente qui fait des crises de boulimie, et puis qui va ensuite se restreindre pour perdre le poids qu'elle a pris pendant la crise. Donc, il n'y a pas de vomissement, mais il y a une préoccupation d'abord autour de la nourriture, puis après autour du poids. Donc c'est assez pénible. Et voilà, elle a eu beaucoup de chance que le changement s'est fait à 80 mg. Et maintenant, elle me dit, par exemple, je peux m'arrêter devant une pâtisserie sans souffrir de voir tous les gâteaux exposés, puis je passe mon chemin et je suis pas en train de me torturer, est-ce que je vais en prendre, pas en prendre. Enfin voilà, avant j'achetais 6 éclairs au chocolat en prenant bien soin de dire à la vendeuse que c'était pour toute ma famille qui était là, alors qu'évidemment c'était rien que pour moi, plus il y avait 6 éclairs, plus 6 brioches, plus voilà. Et donc ça leur fait un sentiment vraiment bizarre, hein. Au début, il faut s'habituer. C'est un peu comme si vous étiez de peau blanche et vous deveniez noir, ou noir et de peau blanche. Le changement est très brutal et peut être assez déstabilisant.
Ce traitement, elles vont devoir le prendre durant toute leur vie, ou bien est-ce qu'on peut à un certain moment dire, ben là je peux arrêter le médicament et les effets vont perdurer?
On ne sait pas, on a toutes les possibilités. Il y a des patientes qui ont arrêté, d'autres qui continuent sur des toutes petites doses, d'autres qui font des aménagements. Alors après, on voit toutes sortes de choses, hein. Par exemple, moi j'ai une patiente qui est très très bien soulagée par le baclofène, mais quand elle est trop angoissée, quand elle a trop de soucis dans sa vie, elle arrête de le prendre, puis comme ça elle fait une petite série de crises, elle dit que ça, voilà, ça lui fait du bien. Puis après, hop, elle reprend le baclofène pour ne plus en avoir. Donc vous voyez, il y a toute une espèce de gestion un peu curieuse de la crise, avec une sorte de confiance des patients dans le médicament. Puis effectivement, celle chez qui ça marche, quoi. Voilà, ça coupe la crise, hein. C'est très curieux, hein. C'est très curieux.
Le baclofène et la boulimie, en quelque part, ça rappelle l'histoire du baclofène et de l'alcoolisme, avec, pour reprendre l'exemple de la France, l'Agence nationale de sécurité du médicament qui déconseille fortement son utilisation dans les troubles du comportement alimentaire. Pour vous, Pascal Gache, que dire? Il ne faut pas en tenir compte et essayer quand même, parce qu'en face, il y a des patients et de la souffrance.
On ne peut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte de l'avis d'une agence, hein, ce serait quand même un peu criminel. Simplement, dans la vie clinique, on a toujours vu que les avancées cliniques se sont faites voilà, autour de tentatives du médicament dans telle indication. Et dans un deuxième temps, on aime bien que ça soit relayé par des études. On attend toujours les résultats des deux études françaises autour du baclofène et de l'alcool. On a besoin des études. On a éminemment besoin des études. Je dirais, on a à la fois besoin des études, on a à la fois besoin des psychothérapies, on a à la fois besoin du baclofène pour que ça fonctionne. Et il ne saurait être question de se dispenser d'une évaluation un peu rigoureuse. Au contraire, il faut. Et en même temps, la pression qui naît des bons résultats obtenus permet à des chercheurs de se lancer dans des études. Sinon, on peut penser que ça intéresserait personne, d'autant que l'industrie pharmaceutique n'est pas vraiment intéressée par ça, puisque le médicament est générique et qu'il ne peut pas rapporter de l'argent à l'industrie qui investirait dedans, en tout cas pas dans les conditions habituelles.
Pascal Gache, alcoolologue et addictologue à Genève. On parle de baclofène dans CQFD ce matin, son utilisation contre la boulimie. La suite, ce sera juste après Stéphanie Heinzmann. Stéphanie Heinzmann dans CQFD, Coming Up From Hell. On parle baclofène ce matin et son utilisation pour le traitement de la boulimie, une utilisation que l'Agence Nationale Française de Sécurité du Médicament, donc l'équivalent de Swissmedic en France, déconseille fortement. Stéphane Letro, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors en Suisse, qu'en est-il?
Alors à notre connaissance, le baclofène n'est pas utilisé dans les centres spécialisés de Suisse romande. Alain Perroux est psychiatre, spécialiste des troubles des conduites alimentaires.
La prescription reste très marginale dans cette indication, le baclofène n'étant pas reconnu par l'AMM. L'autorisation de mise sur le marché de ce produit ne contient pas d'indication concernant les troubles des conduites alimentaires en général et la boulimie en particulier. Après, au cas par cas, certains médecins peuvent y faire recours dans des conditions très particulières, en particulier donc en cas d'échec des autres moyens de soins.
Et pour vous, en aucun cas, le baclofène ne doit être prescrit d'une part en première intention et d'autre part sans un traitement psychothérapeutique associé?
C'est une évidence, oui. On sait aujourd'hui que la psychothérapie de référence, celle qui a été parfaitement bien validée scientifiquement, c'est la thérapie cognitive et comportementale. Cette thérapie doit être engagée et conduite de façon systématisée avant toute autre prescription médicamenteuse, le baclofène y compris.
Or baclofène, est-ce qu'il y a des médicaments qui existent et qui sont prescrits parfois pour le traitement de la boulimie?
Alors oui, parmi eux, les sérotoninergiques, c'est une classe d'antidépresseurs qui ont deux avantages. Le premier, c'est d'être réputé efficace dans cette indication et validé par toutes les études récentes, elles sont nombreuses. Et le chef de file en est la fluoxétine, qui est le plus prescrit dans cette indication et le mieux reconnu. Ces médications doivent être, là encore, prescrites seulement si par ailleurs une thérapie est en place.
On peut lire beaucoup de témoignages sur le net de patientes qui ont fait le pas et qui se sont auto-prescrits du baclofène. Pour vous, c'est assez irresponsable, malgré les souffrances que peut engendrer cette maladie?
Oui, dans ce genre de cas, le remède pourrait être pire que le mal. Et il y a deux raisons à ça. Parce que le baclofène, qui peut être auto-prescrit, puisqu'on peut se le procurer aisément sur Internet, a quand même de puissants effets secondaires et pour certains très dangereux. On peut citer la chute de la vigilance, la somnolence, l'hypotonie musculaire avec les malaises que ça peut entraîner, l'hypotension. Donc ce médicament doit être prescrit, s'il l'est, dans un cadre médical strict et avec une prudence extrême. En particulier, l'augmentation des doses doit être extrêmement progressive si on veut éviter ces effets secondaires. Les gens qui s'automédiquent ont tendance à atteindre assez vite la dose optimum et parfois dépasser largement la dose autorisée pour obtenir un effet, auquel cas on prend un risque considérable, nettement supérieur au danger même de la maladie.
Cette dose, justement, elle est en Suisse, notamment, plutôt assez basse par rapport à ce qu'on entend dans les traitements de la boulimie, notamment, et même de l'alcool. Lorsqu'on parle de 150 mg, par exemple, c'est nettement plus que ce qui est autorisé ici?
Oui, on considère que des doses moyennes de 60 à 80 mg sont souvent optimum pour les traitements auxquels cette médication est destinée. Dépasser ces doses est possible, ce jusqu'à 100 voire 120 mg dans les cas de bonne tolérance et de résistance au traitement. Au-delà, ça n'est pas autorisé. Toute prescription au-delà de 120 mg est une prise de risque à la fois médicale et juridique.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que au-delà de 120, le médicament puisse véritablement avoir un effet, déployer son effet au-delà de 120 pour le traitement des dépendances, que ce soit la boulimie ou l'alcool?
Absolument. C'est même certainement ce qu'on peut affirmer aujourd'hui. Mais n'oublions pas que les effets secondaires sont aussi dose dépendants. Alors, plus on augmente la prescription, plus on augmente les risques, autant que l'efficacité, même peut-être plus encore.
Quel que soit le traitement utilisé, les médicaments utilisés, est-ce que une personne qui souffre de boulimie peut espérer après un travail de 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, pouvoir dire voilà, c'est terminé, je n'ai plus besoin a priori de médicaments ni de thérapie?
En général, et c'est l'avantage des thérapies brèves comme la thérapie comportementale et cognitive, on estime à 4 mois, 6 mois maximum le traitement classique de ce trouble pour ce qui est de la psychothérapie. Au long de cette psychothérapie, l'ajout d'une médication de type sérotoninergique augmente les chances de succès et améliore le pronostic. Il est exceptionnel qu'on soit obligé d'aller au-delà d'un an. Donc oui, dans la prescription par exemple des sérotoninergiques, on donne souvent aux gens la limite de 6 mois de traitement, qui est le moment auquel il faudra songer à s'en débarrasser. Le taux de succès de la thérapie comportementale cognitive est de l'ordre de 60 à 80% dans de nombreuses études récentes. Donc on a quand même une forte marge de progression grâce à cette thérapie. Dans les 20 ou 30% restants de patients résistants au traitement, l'adjonction d'un sérotoninergique augmente encore un peu la probabilité de guérison. Donc il faut d'abord avoir fait tout ça. Et dans cette petite frange de patients résistants, on est en droit d'essayer d'autres méthodes. D'autres thérapies d'abord, éventuellement d'autres médications, et pourquoi pas le baclofène, c'est pas interdit de le prescrire dans ce cas-là. C'est juste que ça nécessite une grande prudence, et que si on respecte l'AMM, on va peut-être être à des doses qui sont peu efficaces.
Le psychiatre Alain Perroux qui a publié aux éditions Reds « Faire face à la boulimie, une démarche efficace pour guérir ». Alors Stéphane Letrot, l'usage du baclofène dans le traitement de l'alcoolisme a suscité de nombreuses polémiques, on en a parlé beaucoup dans ces QFD, et on attendait, ça a été évoqué tout à l'heure, la publication d'une étude qui devait amener une réelle caution scientifique. On en est où là?
Eh bien malheureusement cette étude française n'a toujours pas été publiée, on ne sait pas quand elle le sera. Et pour la boulimie, on dispose que d'une seule étude, et qui plus est réalisée avec 8 patients seulement et son groupe de contrôle.
Ouais, bon, est-ce vraiment une étude? Merci Stéphane de Letrot. Je vous propose d'écouter...